Bonsoir à tous et bienvenue donc à cette table ronde sur intelligence artificielle et citoyenneté. Donc une table ronde qui fera probablement écho à d'autres tables rondes qui ont eu lieu. On a parlé de Ian Banks notamment ce midi, il y aura d'autres tables rondes qui en reparleront. J'ai avec moi un ensemble de personnalités éminentes pour en parler, des auteurs que je suis impressionné de côtoyer. Enfin éminente, ou en tout cas qui peuvent avoir une compétence pour traiter de ces questions-là. Donc, immédiatement à ma gauche, Kevin Wayne Jeter, donc auteur de nombreux romans de science-fiction, auteur aussi de romans d'horreur, de thriller, quelqu'un qui est connu pour avoir contribué à forger l'étiquette steampunk, donc avec deux autres collègues qui étaient Tim Powers et James Lelock. Donc un auteur notamment connu pour avoir prolongé le fameux Blade Runner, donc en deux tomes supplémentaires, et pour avoir aussi écrit une série de romans supplémentaires dans la grande galaxie des œuvres de Star Wars et de Star Trek. Juste à côté, Walter John Williams, auteur également, primé plusieurs fois, donc prix Nebula en 2001, prix Nebula en 2005, connu pour plusieurs séries très intéressantes, donc je pense à Cablé notamment, la série Plasma aussi, donc Plasma et la guerre du plasma, série très intéressante. Donc auteur qui a eu effectivement une période cyberpunk, donc il sera effectivement très qualifié pour traiter des questions, dont on espère qu'il sera très qualifié pour traiter des questions d'intelligence artificielle. Et puis d'autres romans aussi très intéressants, Aristoi par exemple, qui offrent d'abondantes matières à réflexion. Juste à côté, Claude Delpuech, qui m'a un peu avoué que c'était pas son champ de compétences principales, mais dont je pense que certains aspects scientifiques pourront quand même malgré tout résonner avec la thématique de la conférence. Donc Claude Delpuech est ingénieur de recherche donc sur des choses très complexes que j'ai peine à maîtriser, qui s'appelle le neuromagnétomètre, si j'ai bien compris. Donc il est responsable du département de magnéto-encéphalographie à Lyon, donc qui fait partie de l'INSERM en ingénierie cérébrale. Juste à côté, Jean-Gabriel Ganassia, qui est professeur d'informatique à Paris 6, qui est spécialiste d'intelligence artificielle, de sciences cognitives, qui est auteur de nombreux ouvrages sur le sujet, qui est donc lui aussi membre d'un laboratoire universitaire, donc sur les aspects de connaissances, d'acquisition de connaissances, d'apprentissage, ces questions-là. Et il brasse pas mal de questions qui vont être effectivement très intéressantes à traiter avec nous aujourd'hui. Et puis enfin, un collègue éminent de la même université que moi, donc Hugo Bellagamba, historien du droit, auteur réputé, multiprimé, donc avec un format de prédilection qui est plutôt la novella, qui opère plutôt dans l'Uchronie, donc avec Tancred, effectivement, qui a eu une série de prix, et puis un roman récent, L'origine des victoires, avec une dimension féminine très présente dans ce roman qu'il a essayé d'insérer. Alors j'en profite puisqu'il est là, puisqu'il est un peu à l'origine de cette thématique qu'il a déjà eu l'occasion de traiter. Et la question que j'aurais envie de lui poser, c'est qu'est-ce qui fait que pour toi cette thématique fait résonance en ce moment et que la question peut se poser en ces termes? Est-ce qu'on est sur le point de voir arriver des formes d'intelligence artificielle qui mériteraient de se voir conférer quelque chose qui ressemblerait à un statut de citoyen?
Alors merci Yannick, donc je prends la parole en premier parce que c'est moi qui parlerai le moins, mais j'ai pas résisté au bonheur. J'aurais dû d'ailleurs résister, mais tout à l'heure on parlait du bonheur et de la liberté, donc j'ai pas résisté au bonheur d'être à cette table ronde et de vous entendre pour débattre de ce sujet. Les droits de l'intelligence artificielle ne signifient pas forcément pour moi croire que l'intelligence artificielle sera bientôt une réalité. Je pense simplement que dans la science-fiction, vous savez, la science-fiction est une expérience de pensée et qui nous permet peut-être de réfléchir à notre monde, ce qu'on disait tout à l'heure à la table ronde précédente, et que même si l'intelligence artificielle n'est sans doute pas sur le point d'exister, et sans doute pas sur le point de se concrétiser, en tout cas tel que la science-fiction la rêve, et tel que la science-fiction la met en scène parfois, on en est très 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 loin, en revanche, elle peut être un outil spéculatif pour penser différemment les rapports des individus dans une société, les rapports interindividuels dans une société, Et donc simplement, on peut jouer à un jeu spéculatif pur qui serait, si l'intelligence artificielle existait, quelles seraient les problématiques, notamment juridiques, mais pas simplement juridiques, les problématiques sociétales, les problématiques d'organisation des rapports entre ces intelligences artificielles et puis les intelligences humaines, tout simplement, et notamment la question de la citoyenneté, et qui tient notamment aussi à cœur à Yannick Rumpala, et pour cause. Pourrions-nous un jour faire de ces intelligences artificielles des citoyens? Est-ce qu'un jour on pourra reconsidérer la notion de citoyenneté et l'étendre à ces intelligences artificielles, ou au contraire la voir complètement vaporisée, complètement rejetée, complètement oubliée à cause de la supériorité supposée et à cause de l'ubiquité supposée de ces intelligences artificielles? Donc c'était ça un peu la problématique, de se mettre dans l'hypothèse où ces intelligences artificielles existent, elles sont dans le tissu social, elles existent, et comment, avec le droit et avec les notions de citoyenneté, on protège peut-être l'être humain de leur présence. Voilà.
Alors on va peut-être revenir à une forme de réalisme avec ton voisin, si effectivement on n'en est pas encore à un niveau qui puisse permettre de parler de véritable intelligence artificielle. Malgré tout, où est-ce qu'on en est actuellement? Et avec quel type d'entité on peut avoir à compter dans les années qui viennent, ou à un horizon un peu plus long?
Écoutez, je suis un tout petit peu gêné d'intervenir, parce que pour moi l'intelligence artificielle existe déjà, elle n'est pas dans le futur. Et lorsque j'ai lu l'annonce de la table ronde, je me suis dit le temps n'est peut-être pas le bon. C'est-à-dire qu'on suppose que la science-fiction imagine un temps autre où la citoyenneté serait remise en cause par l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle existe, elle a transformé le monde. C'est la discipline qui a le plus changé les choses en 60 ans. Il faut savoir que le web, c'est l'intelligence artificielle. Alors vous allez me dire non, il y a des câbles, il y a des connexions, il y a le réseau. Oui, mais au-delà du réseau, ce qui a fait le web en 90, c'est la notion d'hypertexte qui a été introduite par Ted Nelson. D'ailleurs, le langage web, HTML, Hypertext Markup Language, ça veut dire langage de balisage d'hypertexte. Et l'idée de Ted Nelson, qui était un philosophe, c'était de faire un modèle de mémoire dans lequel on pouvait établir des liens automatiquement entre les différentes choses. Et ça, il l'a publié en 65 dans une conférence d'intelligence artificielle. Ensuite, ça a été repris par Tim Berners-Lee en 90, ce qui a donné naissance au web. Beaucoup d'autres applications de l'intelligence artificielle existent dans le monde contemporain, comme les machines à dicter, par exemple, hein, les reconnaissances d'empreintes digitales sur nos iPhones, etc. Je ne peux pas les énumérer toutes. Donc, on se trouve dans un monde où l'intelligence artificielle est non seulement une réalité, mais où elle a changé complètement la vie. Et il a aussi changé, et c'est ça qui est important pour notre table ronde, la citoyenneté. C'est-à-dire que, d'une part, la notion de frontière s'est transformée. Hein, puisque, avec Internet, les États, on voit bien, toutes les questions qui se posent avec la mondialisation sont liées à Internet. Donc ça a changé beaucoup de choses sur cette identité qui était à la base de la citoyenneté. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme notion? Le vote, par exemple. Le vote s'est transformé, se transforme. On vote tout le temps, on vote en permanence. Alors bien sûr, il existe encore des urnes avec des isoloirs, mais ces choses-là sont mises en cause, puisqu'on en discute, on parle du vote électronique, ça fait l'objet d'énormément de débats. Et puis, il y a des débats eux-mêmes qui se font par l'intermédiaire de machines, avec une collaboration de tous les individus collectivement à l'élaboration de nouvelles décisions, hein, avec de nouvelles formes de ce qu'on pourrait appeler la démocratie, en tout cas de travail collaboratif. Donc tout ça fait que, effectivement, je pense que la table ronde est bienvenue, puisque la citoyenneté est mise en cause, mais ce n'est pas dans le futur, c'est dans le présent que toutes ces choses-là se transforment.
Et quelle forme auraient ces entités? Donc des algorithmes qui se baladeraient tels qu'on les voit sur les marchés boursiers, ou des entités avec un support un peu plus matériel tels que les robots qu'on nous dessine à un horizon relativement proche?
Alors, dès à présent, la question des robots se pose, parce que nous avons affaire à des machines dont la complexité est telle qu'un individu ne peut pas en anticiper toutes les actions. Et donc, un certain nombre de juristes, il y a débat là-dessus bien sûr, mais un certain nombre de juristes pensent qu'il faudrait donner un statut moral aux robots. c'est une fiction juridique qui permettrait de penser les problèmes de responsabilité. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais alors, des personnes se sont penchées un peu sur l'histoire et se sont dit, mais peut-être qu'il faudrait donner aux robots le statut qu'avaient les esclaves dans la Rome ancienne. Alors, la question est ouverte, il y a beaucoup de débats là-dessus. Mais c'est juste pour vous donner des illustrations sur le fait que le présent est peut-être plus, j'allais dire, il anticipe plus que la science-fiction.
Claude Delpuech, qui a travaillé sur les dynamiques cérébrales, j'aimerais un peu savoir ce qu'il en pense. Et, est-ce que pour lui, ça paraît quelque chose d'aussi réaliste qu'a l'air de le penser son voisin ?
Alors moi, j'ai quand même eu l'impression, quelque part, que le thème un peu de cette table ronde, c'était effectivement la modification de la notion de citoyenneté pour nous-mêmes, en lien avec l'intelligence artificielle telle qu'on la vit aujourd'hui, mais probablement autre chose qui était aussi la notion de conscience artificielle et la notion de citoyen artificiel. Ce qui, à mon avis, est un autre univers qui, alors là, lui, est très très lointain pour moi, semble-t-il assez impossible pour l'instant, enfin tel que je le perçois, mais qui méritait effectivement une certaine réflexion et qui débouchait sur des notions qui viennent d'être évoquées, la notion de décision, la notion de vision d'un futur, la notion de vote. Et du coup, ça m'a donné quand même quelques cheminements dans mon esprit qui m'ont vraiment un peu étonné. Je me suis dit, bon, un certain nombre d'entre vous, il y a une dizaine d'années, se sont retrouvés un jour, peut-être devant une urne, et on leur a demandé de voter pour un traité de constitution européenne. Alors, je ne sais pas, je ne voudrais pas faire de sondage ce soir, mais dans l'assistance, je suppose qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont lu l'ensemble de ce traité. Alors du coup, ça me pose une question, parce que le sondage, je l'ai fait un peu autour de moi. Il y avait, sauf erreur, 443 articles, plus des dérivés pour chaque pays. Et quand j'ai demandé aux gens s'ils l'avaient lu, la plupart m'ont dit, mais non, on n'a jamais lu ce truc, c'est illisible. Mais j'ai dit, mais vous avez voté? Ils m'ont dit, mais oui, on a voté. Alors j'ai dit, vous avez voté pour quelque chose que probablement vous n'avez pas compris et que vous n'avez pas lu. Et ça, pour moi, c'est une vraie interrogation. Ça veut dire que peut-être on serait capable de voter pour une constitution écrite par des intelligences artificielles sans trop comprendre ce qu'elle nous proposerait comme éventuelle constitution. Alors ça me semble grave. Ça, c'est un peu un futur lointain. Donc c'était vraiment une de mes réflexions. Les deuxièmes réflexions, elles étaient beaucoup plus immédiates. On a évoqué tous les robots qui existent aujourd'hui. Et il y a vraiment des problèmes juridiques autour des robots tout de suite, aujourd'hui, qui sont en cours de règlement, pour lesquels il y a effectivement toute une série de discussions au niveau international, que ce soit pour des affaires de sécurité, pour des affaires d'assurance d'utilisation de ces robots, mais aussi pour tous ceux dont on hésite à parler, qui sont les robots guerriers. Et ça, c'est pas du tout un rêve, hein. Ça existe tous les jours. Vous en avez en Corée, vous en avez dans tout un tas d'endroits. Vous avez peut-être chez vous un petit aspirateur qui se promène tout seul dans un coin ou un téléviseur Samsung. Il faut imaginer que ces entreprises fabriquent aussi des robots tueurs et qu'on se pose des questions sur la Convention de Genève appliquée à des robots tueurs et comment est-ce qu'on peut arriver à faire des programmes qui vérifient qu'ils ne vont pas s'amuser à tuer tous les enfants qui passent. C'est vraiment des questions qui sont aujourd'hui dans notre vie de tous les jours et qui sont liées à ces histoires d'intelligence artificielle et aux développements absolument spectaculaires qui sont faits à une vitesse qui est absolument incroyable et inimaginable.
Un des traits du cyberpunk, c'est d'avoir introduit justement ce type d'entité. J'aimerais demander à Walter John Williams comment lui, de manière fictionnelle, voit l'insertion et comment lui, éventuellement, a fait fonctionner dans ses œuvres l'arrivée de ce type d'entité.
I think science fiction writers tended originally to think of artificial intelligence the same way they used to think of robots, as being very generalized. If you look at the work of Asimov, for example, his robots look like people, and they pretty much work as people. They're interchangeable. They can do all sorts of jobs. But when we actually got robots, they turned out to be much more limited and is designed for specific functions. I have a robot in my kitchen that makes bread. And that's all it does. It makes very good bread. But there are robots that have been designed to do welds on automobiles as they're being manufactured, or to pick targets for the Air Force, or just very specific things like that. So When people began to write about artificial intelligence in this speculative way, they tended to view it more or less in the same fashion of a very generalized intelligence that that could do pretty much anything. If you look at John Brunner's Stand on Zanzibar, there's a supercomputer in that, but you ask it questions in ordinary language, and it will reply in ordinary language. And it knows everything in the world. And then once science fiction writers actually got computers on our desks, we realized how limited they were. And now we're in the same situation with artificial intelligence. We're discovering that there are many different artificial intelligences, but they're all designed for one specific purpose. There are intelligences that are designed to trade on the stock market. And these are very flawed intelligences, and fortunately there are human beings still in charge of the stock market who can stop it when it runs amok, which happens many times a day, by the way, and reset it so that the machines don't take the stock market in wild directions. So we tend to humanize the idea of an artificial intelligence, and I think if we do get a true artificial intelligence that along the lines of the kind that people have been writing about, something vast and limitless, I don't think it will have human purpose. I think it will have purposes of its own that perhaps we can't understand at all. We tend to think of artificial intelligence as who want to conquer us, as in the Terminator films. That's a human desire. That's not a machine desire. And I think because artificial intelligence is designed to serve human interests, I think the thing to be more worried about would be Jack Williamson's humanoids, who were designed to protect and serve humanity and took all risk and adventure out of life. Simply by the fact that they were protecting us all the time from doing anything the least bit dangerous, and they were happy to sacrifice themselves for humanity. So that is the danger that I would be more worried about. Another thing, as far as citizenship goes, one of the duties of the citizens is to vote. One of the facts about artificial intelligence and programs in general is that they're infinitely duplicatable. So if you get an artificial intelligence that has the power to vote, this artificial intelligence could then duplicate itself 200 million times and win every election.
Évidemment. Pour prolonger cette idée, pour le coup, s'il y a bien une œuvre dans laquelle la question de la citoyenneté et de l'égalité se pose, c'est Blade Runner, avec ces entités que sont les réplicants. Comment un auteur peut-il reprendre effectivement l'œuvre originale et la retravailler pour retravailler ce thème de l'égalité et de la citoyenneté? Est-ce que les Blade Runner 2, Blade Runner 3 ont apporté des choses supplémentaires par rapport à l'œuvre originale?
Yeah, I'm going to take a slightly contrarian view that really I don't think artificial intelligence is necessarily the deciding factor about the issues we're addressing. It's probably pretty easily, just as we saw in Blade Runner and any number of other science fiction books and movies, to come up with a pretty intelligent artificial being, and we could probably come up with one that was probably smart enough to vote if intelligence were the only factor involved. But the thing is that people don't go into the voting booth to vote their intelligence. They go in to vote their values. They are voting to say, this is what I value, this is what I want to have happen in society, and these are the things that I think society should strive for. And there's a very good example of this from the world of literature. Back in the Victorian age, when the British Empire was at the height of its power, probably the single most successful and popular writer was a woman named Mrs. Humphrey Ward. She's pretty much forgotten now, but at the time she was way more popular and way more successful, and way more influential than any other writer possibly at any other time, to the extent that, because of her personal values, she was single-handedly able to delay female suffrage in the British Empire for about 5 or 10 years. She was just by herself responsible for delaying women getting the vote in Britain for about 5 to 10 years. She was that important. And she wasn't a bad person. She did a lot of good things. She did a lot of charitable things. I believe you can still go into London, and there are still a couple of Mrs. Ward's homes for unwed mothers that she started. She did a lot of good work. But on the issue of female suffrage, she had these values. And basically, they were based in her belief that the purpose of the British Empire was for the agents, the military, the colonizers, the agents of the empire, to go out to other lands, subjugate other people, make them work for the British Empire, and take the products of their labor and the treasures of their countries, and then bring them back to England for the British to enjoy. That was her value. That's what she thought the British Empire was for. And certainly there were a lot of people at that time who agreed with her. And she felt that women, by their inherent nature, were too tender-hearted and sympathetic with other people to do this. That if they had the vote, they would tend to elect people like themselves who were tender-hearted and sympathetic, and they wouldn't run the British Empire in the way that she felt the British Empire should be won, as a very rapacious, predatory enterprise. And so that was why she felt that women shouldn't have the vote. That was her value. And so if Mrs. Humphrey Ward, I mean, obviously Mrs. Humphrey Ward was wrong, as we found out about the inherent nature of women. We've had women such as, say, Margaret Thatcher or Hillary Clinton, and they pretty well demonstrated that they can be just as damn tough as, men about making decisions. But if Mrs. Humphrey Ward or somebody like Mrs. Humphrey Ward was here with us today, and we were discussing, say, should these robots be given the right to vote, she would say, it doesn't depend upon their intelligence. They should be given the vote depending upon their values. If these robots have, for some reason, been programmed to have the value that the empire is for subjugating other people and getting their stuff and bringing it back here, she'd say, yeah, I agree with that robot, and that robot has the same values that I do. Let's give that robot the vote. If a robot was programmed to be tender-hearted and sympathetic, which, as we remember, was one of the deciding issues about what defined a human being in both Phil Dick's novel, Do Androids Dream of Electric Sheep, and then the movie Blade Runner based on it, whether a artificial intelligence could be sympathetic to other creatures. If we did come up with a artificial creature that had sympathy and empathy and tender-heartedness, Mrs. Humphrey Ward would say, no, don't give that robot the vote. That robot has the wrong values. It's not its intelligence that determines whether it should have the vote or not. It's whether it has these values that I have. But it's just too damn tender-hearted and sympathetic, and we shouldn't let it have the vote. So in that sense, yeah, we can talk about artificial intelligence, and there are many, many problems and issues about achieving that level of intelligence in an artificial creature that can weigh possibilities, forecast into the future, see outcomes, choose from different branching possibilities. Those are very difficult and technical problems. The one that will really challenge us is whether we're going to say, let's take this artificial intelligence we've created, what values shall we give it?
Alors c'est une vraie et dure question, enfin celle des valeurs partageables, puisque la citoyenneté c'est ça aussi, hein, c'est l'apprentissage de valeurs partageables, d'où la question d'où viennent ces valeurs, comment sont-elles intégrées, comment sont-elles incorporées dans ces machines et qui leur apporte ces valeurs. Je ne sais pas si vous voulez rebondir là-dessus ou si on poursuit sur les aspects plus directement juridiques. Jean-Gabriel ?
Oui. Deux points. D'abord, peut-être pour répondre à ce qui vient d'être dit, je ne suis pas totalement d'accord. C'est bien parce que comme ça, on va pouvoir échanger nos arguments. Mais ce n'est pas seulement une question de valeur. Je veux dire que la démocratie, lorsqu'elle est née en Grèce, elle était pour une petite cité. Et elle était adaptée à la taille de la cité. Les institutions, qui étaient celles de la démocratie, étaient liées au forum, à l'échange public, au débat, au mode de travail aussi, à la liberté que les esclaves offraient aux quelques hommes libres, aux quelques hommes qui étaient dans la cité et qui pouvaient discuter entre eux. Ensuite, lorsque la notion de citoyenneté a réapparu, bien plus tard, au moment de l'état de droit, il y a eu des références à l'Antiquité. Si on regarde la Révolution française, elle se réfère à l'Antiquité. Mais en même temps, on voit bien que la taille, la dimension faisait que la notion de démocratie changeait de nature et qu'il a fallu instituer la notion de représentation qui était totalement différente. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons affaire à un changement d'échelle qui est aussi important que celui qui faisait passer de la cité grecque à l'État, et cela tient au fait que, avec les différentes technologies de l'information, on a affaire à un échange sur le monde entier, un échange entre beaucoup de citoyens, où la notion de territoire perd un tout petit peu de son sens. Et c'est là où je pense que la notion de citoyenneté évolue nécessairement avec les technologies et avec l'intelligence artificielle. Ça, c'est le premier point. J'avais un deuxième point sur la notion d'intelligence artificielle pour éviter toute ambiguïté. Le terme lui-même a deux sens. D'un côté, c'est une discipline qui est née en 1956 aux États-Unis. Un petit groupe de chercheurs qui a été réunion qui a été provoquée par deux jeunes gens de l'époque qui étaient John McCarthy et Marvin Minsky. Donc un petit groupe de chercheurs a décidé de créer une nouvelle discipline qui décomposait l'intelligence et qui essayait de simuler chaque aspect de l'intelligence avec une machine. Et je suis d'accord, ces réalisations sont bien sûr chaque fois partielles parce qu'il s'agit à la fois de mieux comprendre l'intelligence et puis ensuite de mettre ces automatismes au service de l'ingénierie. Et puis il y a une deuxième définition qui est la définition du grand public qui a fait peut-être le succès du terme, l'ambiguïté. C'est qu'on veut faire une intelligence artificielle, mais ce n'est pas une discipline qu'on veut faire. C'est une espèce de double de nous-mêmes qui, avec les moyens de l'artificiel, deviendrait intelligent. Et lorsqu'on parle d'une véritable intelligence artificielle, through artificial intelligence, bien sûr qu'on ne parle pas de la discipline elle-même, on parle de ce deuxième aspect. Et il y a conflit entre les deux. Et bien souvent, la science-fiction s'est effectivement centrée sur ce deuxième aspect. Mais il faut bien voir que dans la réalité, ce qui a changé le monde, c'est le premier aspect. Alors ça ne veut pas dire que, bien sûr, les pionniers de l'intelligence artificielle n'étaient pas pénétrés de ce deuxième objectif. Par exemple, Marvin Minsky, dont j'ai parlé tout à l'heure, se vantait de connaître tous les grands auteurs de science-fiction de sa génération. Et lui-même a écrit des petites nouvelles de science-fiction. Et donc, bien sûr que les choses étaient ambivalentes, mais je crois quand même qu'il faut bien faire la distinction entre les deux aspects. Et ce qui a changé le monde, c'est la première dimension, bien sûr. Et celle-là a réussi, elle n'a pas échoué.
Hugo, tu voulais réagir ?
Juste un mot sur cette typologie, il a parfaitement raison de le rappeler. On aurait même dû le rappeler tout de suite au début de la table ronde. Mais la science-fiction s'est intéressée au deuxième aspect, évidemment, à cette hypothèse spéculative d'une intelligence artificielle généraliste. Comme l'a dit Walter John Williams tout à l'heure, ça a été également dit par K.W. Jeter aussi. Mais il y a une troisième voie. C'était l'une des raisons, pour moi, c'était l'une des raisons qui était sous-jacente à cette table ronde. La troisième voie qui peut-être se dessine aujourd'hui, et la science-fiction reste toujours un outil comme ça de spéculation, c'est peut-être celle où les produits de la discipline intelligence artificielle qui existe déjà dans le présent, et tu as raison de l'avoir rappelé, c'était fondamental, ces produits modifient la citoyenneté, tu l'as dit, Et donc la troisième voie qui s'ouvre, on a parlé plutôt de la singularité durant le festival, mais une troisième voie qui s'ouvre, ce serait celle dans laquelle le fruit de l'intelligence artificielle, discipline scientifique qui a des applications techniques, modifie la citoyenneté au point de nous obliger à la repenser, à la redéfinir. C'est-à-dire, finalement, en sortant de la dichotomie entre intelligence artificielle et intelligence humaine, grâce au produit de la discipline scientifique qu'est l'intelligence artificielle réelle, on arriverait à une redéfinition de l'être humain, c'est-à-dire de l'individu. C'est-à-dire, un citoyen ne serait plus un citoyen simplement au sens humain du terme, mais ce serait un ensemble de processus composé à la fois d'un être humain ou d'un cœur humain, on va dire, avec tout ce que ça implique, avec toute la spontanéité, l'irrationalité, la liberté de choix, de valeur que ça implique, mais adossé ou complété ou peut-être augmenté de processus d'intelligence artificielle qui l'accompagne et augmente sa capacité de choix et d'interaction avec les autres. C'est-à-dire que ce que peut-être pourrait permettre de dessiner cette table ronde, c'est cette troisième voie qui serait la rencontre entre les chercheurs et les auteurs de science-fiction, où finalement nous ne serions pas dans une opposition, mais dans une extension de l'être humain à travers les modifications engendrées dans le présent par les produits de l'intelligence artificielle. Et c'est un peu à ça que vers ça que j'imaginais que pourrait aller cette notion de citoyenneté.
J'ai vu que Claude voulait réagir aussi.
Alors il y a, à ma connaissance, un seul citoyen intelligence artificielle, c'est un certain Vital, que vous connaissez peut-être, enfin je ne sais pas, ça fait l'objet de papier dans la presse. C'est la première fois qu'une intelligence artificielle rentrait avec une voix dans un conseil d'administration d'entreprise. Et ça, c'est assez étonnant, parce qu'on se dit, bon, à la limite, que chaque décideur utilise une série d'informations pour se faire une idée, une opinion, et choisisse, et fasse un choix, c'est assez normal. Qu'une intelligence artificielle avec une voix soit capable d'orienter les décisions d'une entreprise, ça, c'est quand même une autre affaire, et ça me semble vraiment très étonnant, et ça rejoint un peu la troisième voie, c'est-à-dire, est-ce qu'on obtient une espèce de citoyen étrange, hybride, qui est un être humain qui est capable d'analyser des résultats qui vont sortir d'un système d'intelligence artificielle plutôt obscur, parce que c'est logiciel, hein, c'est d'énormes logiciels d'intelligence artificielle qui font souvent de quelque chose qui s'appelle du credit scoring, donc ils vont essayer d'étudier un peu quelle est la viabilité de fonds placés dans des entreprises pour savoir si ça va rapporter de l'argent, donc c'est très mercantile et très commercial, hein, ces affaires-là. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on ait un citoyen nouveau qui soit absolument démuni quand il est tout seul, qui ne comprenne pas vraiment pourquoi il a pris une décision et qui soit quand même capable d'avoir une action sur le monde autour de lui et sur la société autour de lui? Moi, c'est quelque chose qui m'effraie un peu, mais je reste ouvert à tout ce qui peut arriver dans le futur.
Alors très bien, ça va faire la transition, parce que je voulais avancer vers les aspects juridiques, comme le temps passe très très vite. Le terme de droit, effectivement, était dans le titre de la table ronde. Est-ce qu'il faudrait envisager un nouvel ensemble de droits fondamentaux? Est-ce qu'il faudrait envisager une forme de déclaration universelle du droit des machines? Le juriste, non ou...
Alors, il y a une chercheure du Massachusetts Institute of Technology, Kate Darling, qui a publié un article qui a été commenté par Roland Lehoucq, donc là j'avance en terrain protégé, hein, sur « Donnons des droits aux robots ». Et c'était un article donc de Kate Darling sur l'idée qu'on pouvait donner des droits aux robots, mais pas pour eux-mêmes. On pouvait donner des droits aux robots pour protéger les utilisateurs de ces machines et protéger aussi, d'une certaine manière, l'objet en lui-même, c'est-à-dire garantir sa pérennité, sa fonctionnalité en quelque sorte. Et donc il y avait déjà un premier pas sous l'idée que les droits des robots pourraient être des droits accessoires aux droits de propriété, par exemple. C'est-à-dire que quelqu'un qui achète une machine est censé, par exemple, il y a tout un suivi, toute une maintenance de la machine, et donc donner des droits aux robots, ce serait donner des droits accessoires à ces robots pour permettre une meilleure utilisation, une meilleure intégration de ces machines dans la société. Donc ça, c'était une toute première étape. Après, l'idée d'un droit universel de la machine, enfin l'idée d'une déclaration des droits universels de la machine, elle est purement spéculative. Et à la limite, la seule chose que moi je pourrais envisager, c'est une déclaration des droits communs, des droits fondamentaux de toutes les intelligences, qu'elles soient biologiques ou artificielles. Ça serait intéressant. Une nouvelle déclaration universelle des droits, où la notion d'humanité ne serait plus simplement adossée à l'existence d'un corps biologique. Et ça peut être intéressant, parce que Michel Serres nous disait l'année dernière aussi qu'il fallait reconsidérer les droits de la nature. et que peut-être repenser le contrat social, repenser les droits fondamentaux, c'était repenser l'homme et tout ce qui est dans son environnement, que ce soit naturel ou technique. Et dès lors que les machines nous aident à vivre et nous accompagnent, on va voir Roméo tout à l'heure qui va venir, est-ce qu'il ne faudrait pas protéger aussi ces machines dans la mesure où elles contribuent à notre liberté, à notre protection en tant qu'être humain? Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. S'il y avait une déclaration universelle des droits, totalement hypothétique, enfin, il faudrait qu'elle soit commune, sinon elle n'aurait pas de sens, à mon avis.
Et pour rebondir sur l'aspect vote dont on parlait tout à l'heure, on a parlé de droit de vote. Effectivement, être citoyen, c'est appartenir à une communauté politique, c'est appartenir à la police au sens grec du terme. Comment est-ce qu'on pourrait faire fonctionner ce droit de vote qu'on évoquait tout à l'heure? Est-ce qu'un auteur de fiction a déjà tenté de faire fonctionner ce droit de vote pour des machines?
Yeah, I think there would be an intermediate stage, perhaps involving uploading. In which people succeed in uploading their own intelligences into a machine. Then the question is, does that uploaded intelligence have rights? If the original person is still alive, does the uploaded intelligence have the same rights as the person who is still alive? In other words, do they get two votes? So I think that will go a long way towards resolving any future problems once that issue is settled. If, in that case, the uploaded individual would be a lot closer to human, would have human desires, human values, and it would be easier to make that transition to giving this right. But of course, we've been talking about voting, but there are also other duties of a citizen, obeying the law, for example. Laws are very complex. As I stated in my book, this is not a game. A program doesn't know whether it's obeying the law or not. It just knows if it's obeying its own program. So you could have a program that is very successful at what it's doing, but nevertheless is completely outside the law and is performing acts that would be illegal if a human being did it. There's also the obligation of military service. In many cultures. So we've already seen that, of course. So there are a whole lot of aspects that have to be taken into consideration. How do you program a machine to obey the law? How do you program a machine to obey the law in each district in which this machine has an extension? And so you have, in order for the machine to have universal rights, it has to acknowledge the universal rights of humans first and be able to respond to those.
I think there's another issue that we have to address, is that it's not necessarily going to be up to us and you and the citizens of the world about whether we should extend the citizenship franchise to robots. We have to consider what does the so-called powers that be want to have happen in terms of citizenship and voting. If you look at it historically, the single most expensive, disastrous, and catastrophic decision ever made in the history of mankind, or at least civilized mankind, was the United States decision to launch the war on Iraq. The best estimate of the dollar cost is something like $6 trillion, untold suffering, and in terms of the catastrophic consequences that we still see cascading from that decision, yes, it's probably the single worst decision ever made. If only intelligent creatures had voted on whether to do that or not, it wouldn't have happened. The decision was made on an emotional basis. Essentially, there was a great push by the state for people to feel an emotional need to launch that war, no matter what the reasons, no matter what the territory, the consequences, everything that intelligent people were saying, no, this is a very bad idea. Don't do this. If you have any experience at all with this territory, with these people, with the consequences of doing this kind of thing, an intelligent decision would be to say, no, don't do it. But it was an emotional decision. The state wanted an emotional decision on the part of the citizenry about launching that war. why would the state be interested in bringing in a whole bunch of new voters who were intelligent and who would look at all the issues involved and who would read everything and who would think deeply about it and go, you know, even though my gut says, yeah, I really want to kick those people's butts for doing that, if they had the emotional capacity that we could program into machines, that intelligent capacity, the intelligent capacity would say, no, as much as my blood is boiling, my intelligence is overriding my emotions. Let's do the intelligent thing and not do this because of the easily foreseeable consequences. So the state is going to have a very big voice in who gets to vote. I mean, the state always does. And it's not going to necessarily say, yes, let's have lots more of an intelligent voters. It's going to want to maintain a citizenry that can be manipulated, controlled, guided on an emotional, irrational basis.
Grosse question de savoir qui serait le plus sage dans l'histoire et est-ce que ce type d'entité aurait nécessairement plus de sagesse que les êtres humains. D'où une question un peu provocante que j'avais, c'est... Voilà, ou si Jean-Gabriel veut réagir tout de suite.
Oui, je voulais réagir pour dire que, dès à présent, dans les laboratoires, nous avons des projets sur des processus de décision collectifs. De même que dans l'État, on pense que l'ensemble des citoyens contribuent à la décision en votant. Alors, nous ne le faisons pas à l'échelle d'un État, mais sur des petites décisions. Par exemple, aujourd'hui, en Europe, lorsque un soldat prend une décision d'attaque, il ne le fait pas tout seul. Il y a une cascade de personnes, de décisions qui doivent être prises. Et dans le temps de l'action, c'est assez difficile. Et ce que l'on pense, c'est qu'il faut s'éclairer, quelquefois, de spécialistes. Chacun contribue à sa matière. Oui, ce n'est pas le vote démocratique où une voix vaut une personne. Là, au contraire, c'est un vote collectif qui correspond à une décision éclairée qui va être élaborée par différents spécialistes. Et donc, dans ce cas de figure, il se peut qu'un agent intelligent, c'est-à-dire un robot, mais un robot au sens virtuel, au sens où on avait entendu tout à l'heure, c'est-à-dire une intelligence artificielle capable de se dupliquer, donc peut avoir des éléments d'information qui sont extrêmement utiles et qui vont éclairer le choix qui va être fait. Et donc, on travaille sur des systèmes multi-agents dans lesquels on a des agents humains qui vont donner des raisons, et puis il va y avoir des agents artificiels, et il y a une argumentation et une élaboration d'une décision collective avec l'équivalent d'un vote au sens étymologique, c'est-à-dire un vœu qui va être émis par les différents partenaires, mais pas aveugle, pas caché. Au contraire, un vote au sens grec, c'est-à-dire un vote transparent et public. Voilà donc ce qui existe déjà dans les laboratoires.
J'avais encore beaucoup de questions en stock, mais comme le temps a passé très vite et que je voulais quand même garder un temps d'interaction avec le public, est-ce que le public a des questions? Est-ce que je vois déjà des mains qui se lèvent.
C'est une question juridique. On a déjà des entités non humaines qui ont des droits. Ce sont les entreprises commerciales qui sont des personnes morales. Elles peuvent... de faire un procès, elles peuvent posséder des choses, elles peuvent emprunter de l'argent. Si on fabrique une intelligence artificielle spécialisée dans la gestion d'entreprise, et si l'administrateur humain de l'entreprise n'a de la part de ses actionnaires que la seule consigne d'appliquer exactement ce que lui propose l'intelligence artificielle, on a déjà un cadre juridique pour avoir des droits pour une intelligence artificielle. Alors, elle n'aura toujours pas le droit de vote, mais il me semble que certaines entreprises, dans certains pays, je ne suis pas sûr dans tous, ont le droit déjà de donner de l'argent à des partis politiques. Donc, est-ce que c'est déjà un cadre possible? Alors, c'est une question juridique. Et qu'est-ce que ça peut, quelles conséquences ça peut avoir sur notre futur?
Moi, je ne suis pas juriste, et donc je ne peux pas juger de la pertinence de ce genre de choses. Mais je sais qu'un certain nombre d'avocats pensent aujourd'hui qu'il faut donner une personnalité morale à des machines. C'est une fiction juridique qui pourrait être utile dans un certain nombre de cas concrets. Alors, bon, il y a peut-être des gens qui sont plus compétents en la matière. Tout le monde n'est pas d'accord, bien sûr, là-dessus, parce que ce sont des choses nouvelles, mais ce sont des choses très actuelles, comme sont des débats qui sont extrêmement pertinents aujourd'hui, compte tenu de l'évolution des machines, qu'il s'agit des robots physiques ou de robots virtuels, comme ceux dont vous parliez, c'est-à-dire de robots qu'on trouve sur Internet ou dans des machines.
Juste pour compléter, hein, je ne suis pas du tout spécialiste de droit commercial, donc je vais être très prudent, mais la personnalité morale pourrait tout à fait être un modèle, hein, utilisé d'ailleurs, comme le dit Jean-Gabriel. À partir du moment où on fait le distinguo, je crois qu'il y a une table ronde qui l'a fait plutôt sur la conscience et l'intelligence, à partir du moment où on ne se pose pas des problèmes d'individualité à proprement parler, les moyens d'action d'une personne morale peuvent très bien correspondre aux moyens d'action d'une intelligence artificielle dédiée, en particulier, qui existe déjà de toute façon sous forme d'algorithme dans les domaines du commerce. Donc effectivement, la personnalité morale pourrait être un chemin au moins expérimental pour ce genre d'acteurs.
Mais tu as des gens comme Alain Bensoussan, qui est un juriste, un avocat qui réfléchit là-dessus, et qui considère qu'effectivement la forme société anonyme est un des modèles juridiques qui effectivement comporte un certain nombre de propriétés qui seraient applicables à ce type d'entité.
Oui, quant aux fictions juridiques, on en a inventé plein. La fiction juridique étant, est vrai en droit, quelque chose qui n'a aucun fondement factuel concret, c'est tout à fait un moyen aussi que de créer des personnes ou des personnalités artificielles.
Mais quand même, sauf erreur quelque part, le droit en matière de justice reste quelque chose d'assez cartésien. Or, un gros problème avec les intelligences artificielles, c'est qu'on est très souvent maintenant incapable d'expliquer pourquoi elles ont fourni un résultat. Et en particulier, les réseaux de neurones apprennent beaucoup de choses, avec des informations qui sont très diverses, et on ne sait pas pourquoi ils vous sortent ce résultat. Donc comment est-ce qu'on peut rendre responsable quelqu'un ou quelque chose d'un résultat qu'il n'est pas capable d'expliquer d'une certaine façon? Et ça, c'est quand même assez gênant d'un point de vue droit. Même si je ne suis pas du tout spécialiste de droit non plus.
Non, mais tout à fait, se pose le problème de la responsabilité. Après, en même temps, ce n'est pas le résultat qui compte. C'est-à-dire que le système juridique, le droit, c'est un instrument d'organisation. Donc finalement, si on décide de donner le droit, justement, à une intelligence artificielle de prendre une décision, même si on ne comprend pas le mécanisme décisionnel qui lui a permis de prendre la décision sera légale. C'est tout le problème, c'est-à-dire qu'il faut, savoir sur quoi on se... Le droit n'est pas en aucun cas une garantie de la justesse ou de la cohérence ou de la rationalité de la décision prise. Simplement, si le processus de décision a été légalement prévu, il est légal, c'est tout. Donc à partir de là, il va falloir faire attention précisément à ce que l'on permet de faire légalement à une intelligence artificielle dont précisément, comme tu le dis bien, on ne comprend pas les raisons fondamentales de la décision.
Je peux dire un mot ? Je peux poser une question et dire un mot. À la base, d'abord, il y a une très grande différence entre le droit des personnes et le droit des sociétés, le droit des entreprises, le droit moral. Alors, à la base d'un droit, et en particulier du droit des personnes, il y a toujours directement ou indirectement supposé un dol. Donc, avant qu'on puisse doter des intelligences artificielles de droit au sens où on l'entend pour le droit des personnes, il faut qu'on puisse imaginer en ce qui les concerne un dol, et que par exemple interrompre une machine qui fait des transactions boursières à la microseconde souffre du fait du moment où on la recette, enfin où on la réinitialise ou on l'éteigne. Donc je crois que cette notion de dol est extrêmement importante. On le voit bien dans la différence, je ne suis pas juriste, mais j'ai été un peu économiste, entre le droit des personnes et le droit des affaires, c'est que je n'ai jamais entendu parler d'une société qu'on ait mise en prison ou qu'on ait condamnée à mort. Il y a toujours derrière des personnes. Alors, la question qui est posée ici, c'est quel serait le statut, et pas celui de statut anonyme, qui est une façon de contourner le fond de la question, d'éventuelles intelligences artificielles au sens de l'IA forte, puisque c'est cette IA forte dont parlent les auteurs de science-fiction, dont je me suis moi-même servi et auquel tous mes amis savent que je ne crois pas un instant pour l'avenir prévisible.
Juste pour dire un mot, effectivement, la distinction est tout à fait claire, bien sûr, mais le risque étant précisément que ces intelligences artificielles n'auraient pas besoin d'être reconnues comme personnes à part entière. C'est-à-dire que si on les réduit à ce rôle de personnalité morale, finalement, elles s'affranchissent de tout ce qui va avec la personne humaine à proprement parler. Et c'est ça, justement, le risque. Il y avait un chemin tout à l'heure évoqué lorsqu'on disait dans le vote la duplication après le téléchargement de la mémoire ou de l'identité d'un être humain dans une machine qui induirait le fait de lui permettre de voter à plusieurs reprises ou indéfiniment en se dupliquant. Il y a des outils juridiques qui existent pour empêcher ça. Par exemple, vous avez un très vieil outil juridique qu'on appelle la mort civile. La mort civile, c'est le statut des personnes qui ont disparu et dont on ne sait pas où elles se trouvent, et qui, au bout d'un moment, pour des raisons de blocage de fonctionnement de droit d'héritage, par exemple, se trouvent en situation de mort civile. La mort civile interdit de voter, la mort civile interdit d'avoir une action citoyenne, mais conserve une certaine partie des droits de la personne. Alors, on pourrait imaginer que quelqu'un en téléchargement, certes transcende son existence biologique, continue d'exister, mais serait au regard de ses droits de citoyen en état de mort civile. Donc vous voyez, de vieux mécanismes juridiques peuvent servir à penser des garde-fous contre les intelligences artificielles telles que... Voilà. Donc un des compléments à ce que tu disais.
Il reste un tout petit peu de temps pour une toute petite question. Plus personne ? Si, pardon.
Bonjour. Je voulais savoir, est-ce qu'il n'y aurait pas des parallèles à faire peut-être avec la réflexion qui est actuellement sur le statut juridique de l'animal ? Parce que le gros problème qu'on a en droit, c'est qu'on a la catégorie d'un côté des objets juridiques et de l'autre côté des sujets juridiques. Et là, on sent bien qu'avec les robots, on est un peu sur un entre-deux, puisqu'on ne pourrait pas les élever au stade de sujet juridique, parce qu'il y a quand même la problématique du créateur de se dire qu'on ne va peut-être pas les mettre au même niveau que les sujets que nous sommes. Et en même temps, on se rend compte qu'il y a peut-être une complexité qui fait qu'ils sont au-delà de l'objet simple, purement passif. C'est la problématique qu'on a un peu avec l'animal. On reconnaît que, par exemple, quand il y a atteinte à un animal, il peut y avoir versement de dommages et intérêts ou de choses comme ça, parce qu'il y a un attachement particulier. Est-ce que les pistes de réflexion du statut juridique de l'animal ne pourraient pas être transposées à ces réflexions actuelles sur les robots et les statuts du robot?
Can I jump on that? I think you're absolutely right. You raise a very interesting issue. I've recently been living in Ecuador, and one of the things I discovered is that in Ecuador, trees have constitutional rights. A tree can actually be an appellant in court. And when I first heard this, I thought, really? I mean, what kind of trees are we talking about that they can go to court? And they said, no, somebody has to be appointed to represent the tree. But the tree actually has rights that somebody can plead for it in court in Ecuador, and the tree can win the case, possibly. And so, yes, if we can extend rights to living creatures, like we say animals have a right not to be tortured or vivisected, or a tree can have the right not to be cut down needlessly, then certainly machines, we can say, that machine has a right to keep on performing what it was programmed for, as long as it's not injurious to some other party. And so in that sense, yeah, that creates a sort of status that is not quite citizenship. I mean, they don't let trees vote yet, even in Ecuador. And we're not yet having animals vote. But they do have rights that are not citizenship rights, but are rights that citizens have to are obligated to respect. So in that sense, yes, there may be another status of rights for machines and robots and artificial intelligences that we will wind up saying, yes, as full citizens, we need to take that into consideration.
Et donc, en guise de conclusion, une manière de s'en sortir, ce serait peut-être de raisonner avec la vaste catégorie des non-humains, qui permettrait peut-être d'englober ces différentes entités. On m'a demandé d'être très ponctuel, donc je vais devoir laisser la place, justement, peut-être à une préfiguration de ce que seront ces entités non-humaines qu'on verra peut-être dans les années qui viennent. Je vous remercie et bonne soirée.